Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés du média suivant. La presse. Au programme, la sobriété entre bonheur et renoncement. Repenser nos habitudes, ils ont choisi la sobriété. Et pourquoi le Vietnam entre dans l'année du chat et pas du lapin? Bonne écoute.
La sobriété entre bonheur et renoncement, repenser nos habitudes, ils ont choisi la sobriété. Un texte de Valérie Simard, paru le 15 janvier 2023 dans la presse. Repenser nos habitudes. Si dans le registre alcoolisé, la sobriété est valorisée, il en va autrement pour la consommation, où sobriété est encore synonyme d'austérité et de renoncement. La sobriété peut-elle être heureuse? Témoignages et réflexions. Produire et consommer moins, travailler moins aussi, réduire nos déplacements et la taille de l'économie, pour les tenants de la décroissance, une idée de moins en moins marginale, mais encore critiquée, le salut environnemental va bien au-delà de l'adoption de technologies vertes. Il passe par une sortie de la croissance de façon volontaire, organisée et démocratique. Non pas pour décroître à l'infini, mais pour inventer des sociétés post-croissance, libérées de cet impératif de croissance économique qui pèse sur nos vies individuelles et collectives, résume Yves-Marie Abraham, professeur au département de management à HEC Montréal, où il enseigne la sociologie de l'économie et la décroissance. Des sociétés plus justes aussi, où les inégalités sont réduites. La sobriété, qui accompagne inexorablement la pensée de la décroissance, n'est pas nouvelle. Des philosophes de l'Antiquité tels que Platon et Aristote privilégiaient la tempérance à la démesure. Plus récemment, en 1985, Serge Mongeau publiait la première version de son essai sur la simplicité volontaire. L'ouvrage a été réédité en 1998 et le sera à nouveau cet hiver aux éditions Éco-Société. En France, le penseur Pierre Rabhi a parlé de « sobriété heureuse » dès 2005 et l'économiste Serge Latouche d'abondance frugale. Aujourd'hui, la sobriété compte, parmi ses tenants, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, et même le ministre de l'Économie du Québec, Pierre Fitzgibbon, du moins sur le plan énergétique. Sobriété était dans le Larousse, mais là, c'est dans le Larousse quotidien, constate François Delorme, consultant et professeur d'économie à l'Université de Sherbrooke. Mais de quelle sobriété parle-t-on? Pour atteindre l'objectif de l'accord de Paris de limiter le réchauffement climatique à moins de 2 degrés Celsius, préférablement à 1,5 degrés Celsius, chaque habitant de la Terre ne devrait pas émettre plus de 2,1 tonnes d'équivalent CO2 par année. Selon le plus récent bilan des émissions de GES, les Québécois ont émis en moyenne 8,6 tonnes d'équivalent CO2 en 2020, une année où les GES ont baissé dans la province en raison de la pandémie. En 2019, elles étaient de 9,9 tonnes d'équivalent CO2 par habitant. Ces données sont toutefois critiquées puisqu'elles ne comptabilisent que les GES émis sur le territoire québécois, laissant de côté ceux engendrés par la production de biens importés. Ce travail ne doit pas reposer que sur les épaules des individus, met en garde Yves Marie Abraham, auteur de « Guérir du mal de l'infini » et professeur à HEC Montréal. Si on ne repense pas l'organisation de nos sociétés, on pourra bien faire tout ce qu'on veut comme effort. On ne va pas sortir de la trame très destructrice dans laquelle on est embarqué. Il faut repenser nos transports, donc, l'organisation des villes et le système alimentaire, notamment, comme le suggère le GIEC dans son plus récent rapport. Pour que cette sobriété heureuse soit possible, il faut l'organiser collectivement, écrit le chercheur en économie écologique Timothée Parikh dans son essai « Ralentir ou périr » paru début janvier 2023 au Québec. Si l'on me donne directement accès à une alimentation saine, à des médecins et à des dentistes, ainsi qu'à un logement, je n'ai pas besoin d'un salaire mirobolant pour acheter de la nourriture, payer des soins de santé et louer une maison. Réduire d'autant nos émissions de gaz à effet de serre nous ramènerait-il au Moyen Âge, voire à l'âge de pierre? Pas forcément, répond Yves-Marie Abraham. On a des acquis, des savoirs. On a développé des techniques qu'on pourrait utiliser. Si la sobriété, c'est retourner vivre dans une caverne, alors c'est une caverne chauffée ou climatisée à 20 degrés en permanence, où chaque personne dispose de 15 mètres carrés, a illustré Julia Steinberger, professeure à la Faculté des géosciences et de l'environnement de l'Université de Lausanne et autrice principale du rapport du troisième groupe de travail du GIEC lors d'une visioconférence présentée en décembre 2022 en marge de la 15e conférence des Nations Unies sur la biodiversité, COP15. Vous écoutez « La sobriété entre bonheur et renoncement, ils ont choisi la sobriété, repenser nos habitudes », un texte de Valérie Simard, paru le 15 janvier 2023 dans la presse. Depuis fin 2019, en France surtout, mais aussi dans une trentaine d'autres pays et bientôt au Québec, l'entreprise d'économie sociale 2 tonnes anime des ateliers immersifs dans lesquels les participants sont appelés à imaginer un futur où cette cible de 2 tonnes serait atteinte. Près de 40 000 personnes ont suivi cette formation, notamment des dirigeants d'entreprises et des ministres du gouvernement français. 2 tonnes travaille à structurer une offre d'ateliers qui serait offerte sur le territoire québécois en 2023. Le projet repose sur des animateurs bénévoles qui s'en approprient le contenu pour le présenter au public. Quand tu enclenches des actions qui sont ambitieuses, qui se mettent en place à tous les niveaux, individuels, collectifs et au niveau des entreprises, on voit qu'il y a des dynamiques qui se mettent en œuvre qui vont que tu peux très vite passer de 9 tonnes à proche de 2 tonnes sans aller sur Mars pour créer des usines ou sans revenir au Moyen Âge, affirme le cofondateur de 2 tonnes compagnie, Pierre-Alix Lorrain. C'est tout à fait possible, mais cela suppose des changements majeurs qu'il faut commencer rapidement. À quoi ressemblerait ce monde? Beaucoup moins de déplacements, certainement. En avion comme en voiture. Moins de viande rouge. Plus d'aliments cultivés localement. Des logements plus petits, cite-t-il en exemple. Yves-Marie Abraham évoque la mise en place de milieux de vie complets compatibles avec la marche. C'est une activité qui nous permet, en plus de penser et de rêver, des choses qu'on a du mal à faire aujourd'hui. François Delorme pousse, pour sa part, pour un monde où la publicité est abolie, où les prix sont ajustés pour tenir compte des coûts environnementaux, tout en offrant des compensations aux personnes à plus faible revenu, et où chacun dispose d'un passeport carbone doté d'un budget annuel limité en émissions. Par exemple, si j'ai un budget de 10 tonnes sur 5 ans, je vais essayer d'en émettre 1,5 par année, et la dernière année, je vais pouvoir aller en voyage. C'est vers ça qu'on doit aller si on veut régler le problème, affirme François Delorme, professeur d'économie à l'Université de Sherbrooke. Ces changements, bien qu'ils aient un effet important sur le confort tel que nous le connaissons, ne sont pas nécessairement synonymes d'une diminution du bien-être collectif. Le bien-être, ce n'est pas juste une augmentation de revenus et de combler l'écart avec l'Ontario, c'est aussi d'avoir un environnement plus sain, de diminuer les cas de santé mentale, le décrochage, d'augmenter l'alphabétisation, fait valoir François Delorme, qui a occupé le poste d'économiste en chef à Industrie Canada. Selon lui, il est impératif de changer de boussole afin de faire en sorte que la façon dont on mesure le progrès ne repose plus entièrement sur le produit intérieur brut. Ça devrait nous permettre de ralentir notre mode de vie, croit Yves-Marie Abraham. Tout le monde souffre un peu de cette pression à la profitabilité, au rendement, à la rentabilité, à l'accélération. La sobriété heureuse, c'est commencer à respirer et recommencer à faire soi-même un certain nombre de choses plutôt que d'être un pur consommateur. Subvenir à ses propres besoins peut être très libérateur à son avis. Mais il ne faut pas se leurrer, c'est du boulot. Ce n'est pas le pays de Cocagne, poursuit-il. On ne va pas passer notre temps à se reposer. Ce boulot va être beaucoup plus centré sur des rapports de coopération et d'entraide. Même si la décroissance récolte un appui favorable dans la population, 67% en France, selon un sondage de 2019, les données équivalentes ne sont pas disponibles pour le Québec, peu sont prêts à changer radicalement leurs habitudes. Il y en a beaucoup maintenant qui sont rendus à dire que la barrière n'est pas économique, elle n'est pas juridique, elle est psychologique, note François Delorme. Utopique, la décroissance? Le point de départ, c'est que le statu quo n'est pas tenable, rappelle l'économiste. On est beaucoup de gens à répondre que ce qui est utopique, c'est de penser que le statu quo va pouvoir continuer. Quand on lui parle de sacrifice, Pierre-Alix Loret compare la situation au défi sportif qu'il organisait lorsqu'il habitait à Montréal. Le fait de gravir le mont Washington en hiver par moins 40 degrés Celsius, pour beaucoup de gens, c'est pas le fun pantoute. Mais quand tu te lances dans l'aventure, tu y prends vachement du plaisir et tu t'épanouis. Il y a une décorrélation entre le niveau de confort que tu avais prévu et l'expérience que tu vis. 2, 4, 10 ou 15 tonnes? Envie de connaître l'ampleur de vos émissions de carbone? Il existe plusieurs calculateurs en ligne qui ne sont pas entièrement précis, mais qui permettent néanmoins d'estimer l'ampleur de son empreinte. Vous écoutez « La sobriété entre bonheur et renoncement ». Ils ont choisi la sobriété, repenser nos habitudes, un texte de Valérie Simard paru le 15 janvier 2023 dans la presse. Ils ont choisi la sobriété, adepte de la simplicité volontaire Ils ont fait le choix de la sobriété dans leur consommation comme dans leur mode de vie afin de laisser la plus petite empreinte possible sur la planète. De la lointaine banlieue au centre-ville. Pascal Grenier n'a pas toujours vécu dans la sobriété. J'avais une grosse maison en banlieue éloignée, deux autos. J'étais, on peut dire, dans l'abondance. Je faisais des lectures et on disait que l'étalement urbain était l'un des problèmes environnementaux les plus importants. J'étais en plein dedans avec des déplacements journaliers sur de grandes distances. J'allais au centre-ville de Québec chaque jour. Après son divorce, il s'est rapproché de son travail, mais toujours en banlieue, dans une plus petite maison. Cette décroissance s'est poursuivie. D'un 5,5 dans la cité Limoilou, il y a une dizaine d'années, l'homme de 77 ans est passé à un condo de 4,5 l'an dernier, dont il loue l'une des deux chambres. Ça me frappe toujours de voir la grandeur des logis que les gens occupent par rapport à leurs besoins, remarque-t-il. Vivant désormais dans un quartier dense, il a laissé tomber sa voiture il y a 12 ans, ainsi que les déplacements en avion. Je suis au minimum. Peut-être que je pourrais couper encore un peu la viande, mais je n'en consomme presque plus. Ressent-il un sentiment de privation? Pas vraiment. Je suis assez confortable dans ma façon de vivre. C'est sûr que c'est plus facile d'avoir une auto à la porte, mais je m'organise très bien en autobus et avec comme une auto. Il y a beaucoup de gens qui m'offrent des lifts. Je ne me sens pas privée du tout. Les gens ont une idée un peu négative de la simplicité volontaire poursuit celui qui est l'un des fondateurs du groupe de Simplicité volontaire de Québec. On essaie de leur faire voir que la vie peut être normale tout en étant sobre. Normale et plus riche en temps et en argent, selon cet ingénieur retraité de la fonction publique qui fait du bénévolat auprès de l'organisme « Nos choses ont une deuxième vie ». En vivant simplement, je n'ai absolument aucun problème d'argent, même si je n'ai pas des revenus très grands. Et le fait de pouvoir faire du bénévolat, c'est libérateur et gratifiant. De l'éco-anxiété comme parent, j'en ressens. Quel va être le défi de mes enfants? Je ne peux pas m'empêcher de penser que les aliments et leur qualité vont en être un. Pour Marie-Laurence Lavoie, mère de deux enfants, la sobriété passe d'abord par l'alimentation. Sur la terre de 16 arpents qu'elle a achetée il y a plusieurs années dans la Naudière, sa famille cultive la majeure partie des légumes qu'elle consomme et plusieurs fruits. Quand j'ai acheté cette terre avec un vieux verger à l'abandon, les gens de mon entourage me disaient: « Voyons, qu'est-ce que tu fais là? » Maintenant, je me sens vraiment sur mon X parce que j'ai une abondance autour de moi, puis on jardine énormément en famille. Mes enfants peuvent donner des cours sur la manière de planter des patates. L'alimentation est la deuxième source d'émissions de gaz à effet de serre pour les Québécois. Une partie importante de ces émissions est attribuable à la viande, que Marie-Laurence et sa famille n'ont pas arrêté de consommer, et qu'ils ne produisent pas, mais ils élèvent des poules. « Je ne suis pas dans l'absolu, insiste-t-elle. Ma contribution environnementale, je la fais dans mon jardin, puis avec tout ce que je peux faire. Marinade, ketchup, moutarde, bouillon. Elle transforme elle-même une partie de ses récoltes. C'est ça, ma simplicité volontaire, faire soi-même plutôt que d'aller à l'épicerie. Parce que le prix que tu paies à l'épicerie, ce n'est pas cher versus le coût environnemental que ça peut avoir. Elle fabrique aussi ses produits ménagers, habille ses enfants en friperie et conduit une voiture électrique. Son conjoint est responsable du département réparation et construction. Pour être en mesure de faire autant de ses mains, cette vétérinaire a réduit ses heures de travail. Ma job m'apporte un bon salaire. Et tout ce que je fais à la maison nous apporte une qualité de vie incroyable. On mange comme des rois. Celle qui souhaite en inspirer d'autres prône une approche progressive, sans jugement. C'est sûr que si demain matin tu te dis « J'ai le goût de mener ce genre de vie », les bouchées sont grosses pour y arriver. En même temps, il y a 10 ans, je ne jardinais pas. Et maintenant, je nourris une bonne partie de ma famille. Vous écoutez La sobriété entre bonheur et renoncement. Ils ont choisi la sobriété, repenser nos habitudes, un texte de Valérie Simard, paru le 15 janvier 2023 dans la presse. Quand on a moins de choses, elles deviennent plus précieuses. Les gens vont dire « c'est bien petit, mais je trouve qu'on pourrait partager encore plus les services, avoir une cuisine communautaire. » Luc Parent nous reçoit dans son studio, situé dans un immeuble de logement de Rosemont-la-Petite-Patrie, géré par un organisme à but non lucratif. 27 studios sont ainsi aménagés dans ce bâtiment de 3 étages. Les locataires partagent les douches, la buanderie, ainsi qu'une salle de détente, des jeux de société et une friperie. Cette mise en commun des biens est d'ailleurs l'une des voies mises de l'avant dans la pensée de la décroissance. De retour au Québec il y a 10 ans, après plusieurs années passées en Europe dans des communautés de type éco-village, celui qui possède une formation en agriculture biologique et biodynamique s'est installé en ville. Il s'implique auprès de l'Accorderie, un réseau d'organismes basé sur l'échange de services. Il n'a pas pris l'avion depuis, n'a jamais possédé de voiture et est devenu végétalien. Outre son vélo, toutes ses possessions tiennent dans ce petit studio sobrement meublé. Il faut dire qu'il passe souvent ses fins de semaine chez sa conjointe, qui a hérité d'une maison à l'extérieur de la ville. Il faut être patient avec soi-même et y aller de manière graduelle. Manger local, en saison et en vrac, c'est là-dessus que je trouve que j'ai encore du travail à faire. Mais c'est dans la joie. L'homme de 61 ans n'a pas l'impression de se priver, mais plutôt de contribuer. Tu deviens un acteur de changement, de transformation sociale, ne serait-ce que bien humblement. De dire que ça va bien aller, c'est un peu naïf. Ça prend un sens quand tu es dans l'action. Pour lui, qui est passé par des épisodes dépressifs, voire des tentatives de suicide avant de trouver sa voie, l'implication citoyenne est la clé pour une vie heureuse. De s'engager pour le bien commun, c'est fou comme ça a un immense pouvoir. C'était La sobriété entre bonheur et renoncement. Ils ont choisi la sobriété. Repenser nos habitudes. Un texte de Valérie Simard, paru le 15 janvier 2023 dans la presse.
Pourquoi le Vietnam entre dans l'année du chat et pas du lapin? Un texte de l'agence France Presse, paru le 19 janvier 2023 dans la presse. Hanoï. Le nouvel an lunaire ou chinois sera célébré un peu partout dans le monde pour accueillir l'année du lapin, sauf au Vietnam où c'est l'année du chat qui va débuter. Dans tout le pays, Les rues sont ornées de statues de félins et les magasins regorgent de décorations sur le thème du chat, cadeau très prisé pendant le nouvel an vietnamien appelé Tet. Le Vietnam et son voisin chinois, où le nouvel an lunaire est la période la plus importante du calendrier, partagent 10 des 12 signes du calendrier zodiacal, mais les Vietnamiens honorent le chat au lieu du lapin et le buffle au lieu du bœuf. Il existe une multitude de théories pour expliquer pourquoi les Vietnamiens ont opté pour le chat. La réponse pourrait se trouver dans les rizières chères aux agriculteurs vietnamiens, selon l'historien Nguyen Yu Tin. Avec la menace de nombreux rats dans les chanderies, les chats, qui peuvent les chasser, sont un animal populaire pour les Vietnamiens, déclare-t-il à l'AFP. Une autre explication est que les Vietnamiens ne veulent pas observer deux années avec un animal similaire. Or, pour eux, la souris et le lapin sont étroitement liés, a ajouté l'expert. Selon une autre théorie, cela proviendrait d'une erreur de traduction du mot chinois « mao » qui désigne le lapin. En vietnamien, cela ressemble à « meo » qui signifie « chat ». L'année du chat est censée porter chance et garantir une vie sans heurts. À Hanoï, où kumquats et fleurs roses ont envahi les étals, Owang Thi Huong Giang, employé de bureau, ignorait les raisons pour lesquelles les Vietnamiens honorent un animal du zodiaque différent de celui du reste du monde. Mais elle pense que ceux qui sont nés dans l'année du chat, comme elle, ont plutôt bon caractère. Il semble vrai que ceux qui sont nés durant l'année du chat sont souvent plus actifs, plus travailleurs et plus faciles à vivre, dit fièrement Jiang. C'était « Pourquoi le Vietnam entre dans l'année du chat et pas du lapin ?» Un texte de l'agence France Presse, paru le 19 janvier 2023 dans La Presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission rend possible grâce à Lynn Lamarche et Gilbert Lepage à la lecture, Francine Thériault et Diane Métayer à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.